Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous fassions une première lecture qui sera très courte, mais qui va nous introduire, qui sera la piste de réflexion, enfin le fil rouge, on pourrait dire, pour la suite. Donc, Épître de Jacques, Lettre de Jacques, chapitre 1er, verset 22, et dans ce verset, il y a une expression que nous allons donc voir et revoir. Donc, Jacques, chapitre 1er, verset 22, que nous connaissons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Alors la suite, c'est intéressant, c'est ce qui me concerne, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà pour la situation de cette, on pourrait dire, de cette amorce, hein, au niveau du message. Et j'aimerais ajouter ceci, puisqu'il est question de veiller d'être vigilant, attentif, à ne pas nous faire des idées, des fausses idées, à nous faire tout un schéma qui n'aurait plus rien à voir et qui ne cadrerait pas avec d'abord la parole de Dieu et sa compréhension dans l'esprit. Parce que on peut avoir une connaissance très pointue de l'Écriture sainte, dans les textes, dans son histoire, la littérature qui s'en dégage, etc., etc. Mais c'est pas ça. L'essentiel, c'est que la parole, elle est vivante. Elle n'est pas seulement, s'adresser à notre dimension cérébrale ou intellectuelle. C'est important. Dieu nous a donné une intelligence, faut s'en servir. Mais c'est la vie de l'esprit. C'est ce souffle qui se dégage de cette parole. Et quand il est question de ne pas se tromper, quand il est question de ne pas se laisser emporter par toutes sortes de pensées, aussi plaisantes soient-elles, parce que on peut finalement, trouver des avantages, trouver des choses qui nourrissent notre âme, mais je le rappelle, c'est l'esprit. Et entre autres, ce verset que nous avons et qui est donné par des prophètes de l'Ancien Testament, il est dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. » Alors vous devinez de quoi il s'agit si vous raccordez la première proposition de ne pas se tromper par de faux raisonnements. Et là, moi j'ajoute « Ce n'est ni par la force, si véritablement nous pensions que au fond de notre cœur, c'est en forçant, c'est en dominant, ou alors par la puissance, l'écrasement, mais par mon esprit. » Donc, ce qui suppose pour chacun d'entre nous une flexibilité et d'être aussi attentif, mais d'avoir le caractère de celui qui nous appelle et qui nous conduit, qui est notre Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire d'être doux et humble, si nous voulons vraiment être conduits. Élie est l'homme des exploits. Quand on lit ces pages, des livres historiques, les rois, chroniques, etc., etc. C'est l'homme des espoirs et nous avons remarqué une chose, c'est que c'est aussi l'homme qui reçoit ce qu'il demande au ciel. Ça, c'est intéressant de savoir que vous demandez et vous recevez. C'est les principes élémentaires que Jésus nous enseigne, mais même avant ce que Jésus nous ait dit, il y avait un homme qui s'appelait Élie et qui était un personnage tout à fait singulier, comme son successeur Élisée, à travers les signes, à travers les miracles, à travers les prodiges, à travers des choses extraordinaires. Et nous voyons que dans Jacques, la conclusion de ce qu'il nous dit, et je vous le rappelle, parce que c'est souvent rapporté, dans Jacques, chapitre 5, verset 17, je cite, « Élie était un homme de la même nature que nous. » C'était pas un surhomme, c'était pas un extraterrestre, c'était pas un sous-homme, mais il était de la même nature que nous. Et nous voyons qu'il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Imaginez-vous un peu? Entre le moment où il a prié pour que la pluie s'arrête et le moment où la pluie est retombée, il s'est passé 3 ans et demi. Il a prié avec instance et nous pouvons dire que C'est l'homme qui reçoit ce qu'il demande au ciel. Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous, nous avons, eh bien, à vivre et à demander au Seigneur, quoi qu'il en soit, puisqu'il est de la même nature que nous et nous, nous sommes comme lui. D'une manière ou d'une autre, nous sommes que des hommes. Et ça, c'est important. Alors, si je rappelle les faits miraculeux d'Élie, je vais en citer quelques-uns, simplement, parce que, bon, on regarde à la mémoire, ce n'est pas par ma puissance ou par ma force, mais par mon esprit. On garde ça en mémoire. Les faits miraculeux, d'abord, c'est Kérit. Kérit, où il est nourri surnaturellement, alors que la famine est répandue dans toute la région, et par-delà même, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau, c'est la détresse, c'est la famine, c'est une catastrophe. Et là, il va faire l'expérience, tout simplement, eh bien, d'une proximité de Dieu et de voir comment Dieu est capable, dans la détresse, dans la disette, dans le dénouement le plus complet, eh bien, de finalement, eh bien, répondre aux besoins de ceux qui le prient. Il y a Sarepta également, qui est la suite de Kérit. On voit que là, eh bien, il n'y a plus d'huile dans la cruche, il n'y a plus de farine dans le pot, et il va se passer un miracle formidable. Ça, c'est Élie. Il y a la résurrection aussi d'un enfant, dans la même veine, en quelque sorte. Une femme de distinction va perdre son enfant, Élie va venir, et il va véritablement, eh bien, faire une œuvre de résurrection, avant le temps, naturellement, avant ce que nous connaissons dans l'Évangile. Il y a la pluie, parce que faut le faire, quand même prier pour que ça s'arrête et prier pour que ça revienne. Si tous les agriculteurs étaient des croyants fervents, je peux vous dire que ça serait un sacré truc, un petit peu, beaucoup, etc., etc. Et on sait ce que ça fait quand la pluie tombe, ou alors qu'elle ne tombe plus. Il y a le Mont Carmel aussi. Le Mont Carmel, c'est quand même une drôle d'aventure. Quand on voit que là, il va demander à Dieu sur un holocauste qu'il va monter à un autel, et que là, eh bien, le feu du ciel va descendre. Et il va y avoir des choses qui sont extraordinaires. Alors, ça c'est un déploiement de puissance. Déploiement de puissance. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. On va affiner un peu la pensée. Est-ce que vous savez pourquoi, ou les raisons qui ont amené Élie à déprimer, à tomber dans une profonde dépression? Est-ce que vous le savez? Recherche de la puissance, de l'extraordinaire, le transcendant. On a cité quelques cas, au lieu de la présence de Dieu. Et c'est vraiment ce que nous allons approfondir. Et j'ai donné un titre à notre méditation ce matin, c'est les illusions du prophète Élie. Illusions. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Et si on peut prendre un langage moderne, on pourrait parler de syndrome d'Élie. Ouais, qui peut arriver à tous les chrétiens, qui peut arriver à tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, parce qu'après avoir connu véritablement les sommets de la puissance et de la force de Dieu, c'est ce que nous avons dit, eh bien, il va tomber vraiment très très bas. Et ça nous interpelle, parce qu'il ne faut pas se tromper par de faux raisonnements. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Comment Dieu veut-il nous éduquer? Parce que Dieu ouvre les portes du ciel. Et je l'ai souvent remarqué, quand les gens viennent, ils se convertissent, c'est vrai qu'il y a là, eh bien, des belles expériences. On en a fait nous-mêmes des belles expériences avec le Seigneur, qui nous ont marqué jusqu'à maintenant. Par sa grâce, on a tenu le coup, par sa grâce, c'est tout. Et on a prié, on a été exaucé, on a vu que... Et puis au bout d'un certain temps, et une église qui prend de l'âge, etc., etc., on dirait, il faut pas pleurer, faut pas pleurer. Mais on dirait que l'école n'est pas la même, Il semblerait qu'à un moment donné, après avoir vu de grandes choses, choses prodigieuses, surnaturelles, eh bien, le Seigneur a une autre école. Et si, comme il est de la même nature que nous, Élie, eh bien, nous allons passer à la même école. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous contenter de lait, mais nous allons avoir de la nourriture solide. Et ça, c'est une affaire qui parle à notre développement et qui fait la preuve de notre maturité spirituelle. On ne peut pas en être encore au lait, mais il faut aller plus loin. Et un homme comme Élie qui va commencer par les summums, des trésors de Dieu qui descendent, il demande, il reçoit, les exploits, nous pouvons dire, eh bien à un moment donné, plus rien, mais plus rien du tout. Alors est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu a disparu? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Certainement pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas comme cela, et il faut faire attention à ne pas nous tromper par de faux raisonnements. Le syndrome d'Élie, on peut-être le nommer de cette manière. Et puis, il y a une autre face à tout ça. C'est donc il touche du doigt la puissance et la grandeur de Dieu, puis d'un autre côté, il y a son découragement. Et ça nous interpelle, le découragement. Parce que il y en a un autre qui était très proche de Jésus, qui a même baptisé Jésus, c'était Jean-Baptiste. Et qui, à un moment donné, au fond de sa prison, parce qu'il y était certainement depuis quelque temps, va-t-il demander, en envoyant des émissaires auprès de Jésus, faut-il en attendre un autre, ou faut-il que finalement... Et Jésus va répondre, mais regardez, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc., etc. Alors je pense que c'est une bonne nouvelle pour Jean-Baptiste, et ce que nous allons voir, c'est une bonne nouvelle pour Élie, mais nous sommes tous des Élie. Hein, nous avons tous finalement le tempérament et le caractère d'Élie, la nature d'Élie. Élie, nous le voyons, et nous allons voir dans le texte maintenant, nous le voyons tomber dans une dépression sévère, un désespoir. Ce n'est pas un ennemi qu'il a, c'est une ennemie. Elle s'appelle Jézabel. Alors on connaît, vous pourrez lire ça chez vous, hein. Parce qu'elle veut le tuer. Elle veut le tuer pourquoi? Parce que Élie dérange. Il dérange sa conception religieuse. Il bouscule son occultisme et son idolâtrie à Jézabel. Mais surtout, Élie vient sur le mont Carmel de faire tuer 450 ou 430, je ne sais plus, faux prophètes. Et ça ne plaît pas à Jézabel parce qu'elle s'appuyait dans ce qu'elle était reine. Eh bien, ça ne lui plaît pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'homme fort, l'homme qui a vu les montagnes, eh bien là, s'ouvrir, le ciel s'ouvrir, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Ah, on pourrait dire c'est quand même pas digne d'Élie, ça. Hein. Fuir. Oh ben, il y en a d'autres qui ont fui, hein. Quand je vois Moïse, hein. Il a suffi que Pharaon lui dise, dis donc, viens boire un petit peu, j'ai quelque chose à te dire. Hein. Ben, je peux vous dire qu'il a pris la poudre d'escampette. Je ne sais pas où on a trouvé ce mot-là, mais bon, toujours est-il qu'il s'est enfui très loin. Et puis, il y en a d'autres comme ça. David, il n'a fait que s'enfuir devant Saül. Alors, voilà. Ça fait partie aussi de la nature et des réactions de l'homme. Et on apprend à travers le passage que nous allons lire maintenant, eh bien, on apprend que Élie, tout simplement, va errer malheureux dans le désert. Il s'est enfui dans le désert du côté de Bathsheba, et il dira à un moment donné ces deux mots. Il dira, Seigneur, c'est assez, j'en peux plus. Je n'en veux plus. C'est au-delà de mes forces. Qu'est-ce qu'Élie faisait d'avoir, et quel est son crédit qu'il avait lorsqu'il a vu de ses yeux, lorsqu'il a parlé de sa bouche pour produire le miracle? Et là, à ce moment-là, il est complètement à plat, c'est assez. Et il veut mourir. La mort est préférable à la vie, nous dit Job. Puis il y en a d'autres qui ont dit la même chose. Je veux mourir. Alors, on va ouvrir maintenant le premier livre des rois, et au chapitre 19, et on va lire maintenant par le détail ce qui s'est passé. Vous le connaissez, hein, c'est une histoire qui est connue. Les amis qui nous rejoignent, eh bien, vous allez découvrir un épisode de la Bible qui est assez intéressant, parce que ça nous montre que toute notre fragilité et voilà, tout simplement, ce que nous sommes. Alors, 1 Rois, chapitre 19, versets 3 à 8 d'abord. On va commencer, on va le fractionner. Donc, Élie sait que Jézabel veut le tuer, et Élie va fuir. Verset 3. Élie, voyant cela, voyant les menaces, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Il veut être seul. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez ». Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il est moralement au plus bas, le pauvre Élie. Il est vraiment à plat. Et là, à ce moment-là, dans cette partie de son vécu, à ce moment précis, nous touchons du doigt les impressions et les ressentis d'un chrétien ou d'un croyant découragé. Alors, je pense que tous on est passé par le découragement à un moment ou à un autre, où on se dit « c'est plus possible », en oubliant peut-être toutes les belles choses que le Seigneur a fait, mais ça fait partie finalement eh bien, de notre cheminement, de notre route. Le chemin est long, ouais. Le chemin est long et nous voyons qu'un ange va venir pour lui donner de la nourriture. Et quelle nourriture, vous rendez compte? Vous prenez là quelques pilules et puis vous marchez 40 jours et 40 nuits. Hein. Enfin bon, peu importe, ça c'est... Mais ce qui est à retenir, c'est ses impressions. Ses impressions qu'il a lui-même. Ses impressions, c'est son ressenti en quelque sorte. Et à travers un état qui l'amène, eh bien tout simplement à dire « mais moi je veux mourir ». Je veux la mort, je demande la mort. Il fait, comme on pourrait peut-être le dire avec dans le vocabulaire anglo-saxon, il fait un burn-out. Voilà. Là, il sait, tout saute, hein, les fusibles sont en train de brûler, etc. Et la suite nous est dit, et c'est la suite qui nous intéresse. C'est simplement pour mettre en page et mettre en mémoire ce que nous allons lire maintenant. Au verset 9, il est dit ceci, « Et là, il entra dans une caverne. » Il y passa la nuit, et voici la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Nous voyons que il ne veut pas voir Dieu. Mais il l'entend, c'est pour ça qu'il met son manteau sur ses yeux. Il l'entend. Bon, ça c'est une petite note que je mets au passage. Il y a une indication capitale dans le texte que nous venons de prendre. Et je remets devant vous, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Déjà, lorsque nous sommes en bonne forme morale ou psychologique, ça peut nous arriver d'avoir un petit coup sur la tête, hein, contrariété, déception, enfin bon, ça fait partie de la vie, hein, on va pas... faut pas trop s'arrêter à cela. Mais quand on est en déprime, quand les choses ne vont pas, vous avez perdu votre travail, vous apprenez que vous avez un cancer, vous apprenez que vous avez une maladie, que il y a là, vous vous relevez d'un accident et invalidant pour longtemps, et toutes sortes de choses de ce genre, alors à ce moment-là, c'est vrai que ça peut tourner dans notre tête. Et il y a de quoi? Parce que si vous êtes dans l'inaction, je dis pas l'oisiveté parce que c'est autre chose, mais l'inaction, ben vous avez le temps de penser le jour et de penser la nuit. Hein. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Et ça s'adresse à chacun d'entre nous qui pouvons à un moment ou à un autre de notre existence traverser des moments difficiles. La perte d'un être cher, enfin, bon, tout ce que nous pouvons imaginer, hein, mais je vous laisse imaginer parce que c'est à l'infini tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Un burn-out, hein? Ça serait aujourd'hui, on lui aurait conseillé d'aller voir un psychiatre, hein, et puis de lui dire, il faut que vous parliez, hein, parce que vous pouvez pas rester comme ça. Quand il est parlé de faux raisonnement, on pourrait peut-être y mettre comme synonyme illusion, des chimères. On pourrait peut-être parler d'impressions que l'on a, que l'on ressent. On pourrait parler peut-être tout simplement, eh bien là, de ressentis, de sensations, voire même d'utopie. C'est de la subjectivité. Ce n'est pas de l'objectivité, mais c'est de la subjectivité qui est liée à une circonstance, qui est liée à un accident, qui est liée à une maladie, qui est liée à toutes ces infortunes de la vie. Et à ce moment-là, eh bien, est-ce que nous pouvons réfléchir sainement? Est-ce que nous pouvons réfléchir utilement et d'une manière équilibrée, même sur le plan spirituel? Élie, c'est quand même, si on peut pas dire, hein, quand même c'est le prophète de Dieu, si on peut pas dire que c'était un demi-prophète, moi je pense qu'Élie, c'est quelqu'un comme Paul, Moïse et puis David, ce sont des gens qui ont quand même la foi dans leur cœur et qui sont quand même spirituels, hein. Ça c'est sûr. Mais oui, mais cette subjectivité va être finalement, dévoyée. Oui. Même si nous avons du parcours dans notre vie spirituelle, même si nous avons de l'expérience, et il en avait, lui, Élie, même si nous avons véritablement une vie régulière de communion avec le Seigneur, ça, c'est comme ça, c'est tout. Il y a trois éléments que je remarque dans notre texte qui peuvent altérer notre raisonnement et notre bon sens et nous amener peut-être à être dans une situation critique par rapport à notre vie spirituelle et notre foi. Altérer notre raisonnement. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Un raisonnement équilibré, un raisonnement qui est nourri par le Saint-Esprit, nourri par la parole, interprété par le Saint-Esprit, ça, c'est bien. Et puis voir même le bon sens. Quelquefois, on l'a vu malheureusement chez des frères et des sœurs qui, à travers des situations, n'ont pas pu supporter l'épreuve. Pour le temps, en tous les cas. Après, ça s'est arrangé, ça s'est même bien arrangé. Et moi, même entendre leur confession en disant « mais je suis passé par là, mais le Seigneur a permis, parce que j'ai grandi dans tout cela ». Ça n'a pas été inutile, mais bon, quelquefois, c'est plus long. Trois éléments. Il y a le vent. Le vent qui est l'image de la force, de la violence et du bruit. Alors, on a tous en mémoire ce qui s'est passé à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Vous vous rendez compte, 360 km/h. Il nous est dit que le vent, là, dans cette circonstance, il brisait les rochers et il fendait les montagnes. Imaginez-vous, Là, faut mettre la ceinture de sécurité, et ça passe de tous les côtés. On sait que c'est possible, regardez. Ce que nous avons vu ces derniers temps, et c'est catastrophique, c'est terrible. Donc, la force, la violence et le bruit. Il y a ensuite le tremblement de terre, c'est-à-dire un séisme, on l'appellerait comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, vous marchez sur le sol et que tout bouge. Vous êtes complètement déséquilibré, vous ne savez plus où est le devant, derrière, vous êtes complètement renversé à travers ça, le séisme. Et ça cause la terreur. C'est redoutable. Ça cause, dans celui qui traverse ce genre de choses, pris dans un tremblement de terre, c'est l'épouvante, c'est l'effondrement et c'est l'écroulement. Et sur le plan peut-être moral et sur le plan même physique, pour ne pas dire spirituel, les choses s'écroulent les unes après les autres. Et on peut se poser les questions en disant, mais Dieu, où tu es? Où tu es? Et puis, il y a le feu également. Alors le feu, avec les incendies que nous avons là sous les yeux, enfin surtout cet été, c'était une véritable catastrophe, bien qu'il ne se soit pas allumé tout seul, on le sait maintenant. Mais toujours est-il, c'est la destruction, c'est la ruine et les cendres. C'est-à-dire qu'il ne reste rien. Et c'est vrai que lorsque nous regardons un spectacle d'un attentat par incendie, on s'aperçoit que les pauvres gens, c'est terrible. Le vent, on a vu des gens pleurer. Le tremblement de terre, on le voit encore, c'est la même chose. Et puis, le feu, c'est terrible. Et il y a une vitesse de propagation du feu qui est effrayante. Les gens, ils n'ont pas le temps de rassembler, c'est comme dans les autres séismes. Nous avons, et nous pouvons dire peut-être à la suite de ça, c'est que là où les hommes sont sans pouvoir, et ça c'est important, sans pouvoir ni maîtrise, Élie, avant cette expérience, avait du pouvoir et de la maîtrise. Par l'Esprit de Dieu, parce qu'il était serviteur de Dieu, parce que tout ce qu'il demandait au ciel, il recevait, il était exaucé, mais là, rien du tout. Mais alors vraiment, vide. On peut avoir l'impression, quelquefois, dans notre vie, qu'il n'y a plus rien. On fait un peu comme le peuple d'Israël, on murmure. On dit, Seigneur, mais tu as changé, tu n'es plus le même, etc. Mais le Seigneur est toujours le même. Et il est toujours avec nous. Quoi qu'on en dise, n'allons pas nous tromper par de faux raisonnements. Il est toujours là, on va le découvrir, on va voir. Et nous voyons que ce sont des temps d'émotions fortes qui font pleurer, qui nous donnent du chagrin, qui nous donnent de désespérer en disant, mais comme Élie, mais j'ai déployé mon zèle pour toi, Seigneur, je t'ai servi, j'ai mouillé ma chemise, j'ai parlé de toi, j'ai prié, j'ai fait des choses extraordinaires, enfin moi pour moi, parce que je voulais obéir à ta volonté, je me suis laissé conduire, je suis ton serviteur et regarde le résultat, regarde moi-même, je passe à la trappe, excusez-moi l'expression, mais il pouvait penser comme ça, sans pouvoir ni maîtrise. Émotion extrême, bouleversement, conclusion, impuissance complète et totale. Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, quelle est la solution? Alors, il faut rester encore dans l'esprit de ce que nous avons lu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et voilà Élie, le géant de la foi, anéanti. Mais alors, complètement à terre, dans une caverne, dans la nuit, il se couvre, il est là en train de se renfermer, et il se plaint. Il jeûne, il pleure devant Dieu, et il se culpabilise, à tort ou à raison, je ne sais pas, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça c'est bien, hein. Voilà, il comprenait que finalement, il était un homme comme les autres. Alors, la question qui se pose, puisque je vous ai parlé de solution, donc un problème, il y a une solution, naturellement. Mes frères et sœurs, est-ce que Dieu ne parle qu'à travers, que par les alignements naturels et déchaînés? Voilà la question. Nous, dans nos assemblées, on a vu beaucoup de choses, et moins maintenant, mais dans les temps du réveil, et ça remonte à maintenant 80 et quelques années, et puis ça s'est égrené sur le temps. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas encore des choses formidables et merveilleuses. Et moi, je pense que le plus grand de tous les miracles que Dieu fait encore, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui naissent de nouveau, qui se convertissent et qui s'engagent pour le Seigneur. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est encore mieux que de voir un aveugle voir et un boiteux marcher. Hein. Mais il y a un temps pour tout. Mais ces temps-là peuvent revenir. Et je pense qu'il faut compter qu'il puisse y avoir un souffle de l'esprit et que ça revienne. Mais dans le temps d'Élie, plus rien du tout. Même si le vent souffle fort, il n'y a plus de souffle hein, de ce côté-là. Est-ce que Dieu ne parle qu'à travers des éléments déchaînés? Est-ce que Dieu, lorsqu'il parle par des éléments déchaînés, veut terroriser pour soumettre l'incrédule malade de ses peurs? Est-ce que Dieu va envoyer la terreur? Est-ce qu'il va envoyer des choses extraordinaires, comme nous le trouvons dans l'Ancien Testament particulièrement? Dans l'Ancien Testament, ça, je peux vous dire que c'est quand même puissant, c'est fort. Et toutes les manifestations du Dieu d'Israël, c'est des choses qui sont marquantes. Les plaies d'Égypte, hein, c'était pas n'importe quoi. Et puis il y en a eu d'autres. Hein. Extraordinaire. Nous nous sommes nourris et nous nourrissons encore de cet Dieu tout-puissant. Dieu très haut. Etc., etc. Alors, puisqu'on avait parlé d'imagination, j'ajoute, il ne faut pas s'imaginer que Dieu ne parle et n'agit que, tout simplement, quand tout s'agite avec violence, avec fracas, avec tonnerre, tremblement de terre et feu du ciel. Je répète. Est-ce que nous pouvons nous imaginer ou ne pas nous imaginer que Dieu ne parle et n'agit que quand il y a finalement, eh bien là, des choses époustouflantes. Des choses où le ciel tremble et que la terre tremble en même temps. Grand Dieu! C'est souvent ce que nous entendons, hein. Parce qu'il y a peut-être certains enfants de Dieu qui s'imaginent et ne veulent pas voir ou entendre, ou tout simplement s'imaginent et de fonctionner spirituellement et dans la foi que à travers le ressenti, c'est-à-dire sentir, entendre, que par la force et la puissance de Dieu. Et ça pose un problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont exsangues. On a connu nos pères et nos grands-pères qui nous ont précédés. Ils ont vu des choses extraordinaires. L'autre génération qui a suivi, peut-être la nôtre, on a vu des choses aussi. Et aujourd'hui, on se dit, mais il se passe pas grand-chose. On est en train de s'évertuer dans toutes nos églises évangéliques indistinctement, voilà. À travers, Seigneur, on veut voir encore des miracles. On veut voir ceci et cela parce que nos églises sont mortes. Non, elles ne sont pas mortes, les églises. Parce que la vraie vie, c'est pas les choses extérieures. La vraie vie, c'est la vie intérieure. Et ça, faut pas l'oublier, mes frères et sœurs. Parce que c'est Dieu qui donne. Que Dieu donne des ministères avec des dons, des choses comme ça. Mais apparemment, pour l'instant, il faut pas contrefaire les dons, hein. Parce que c'est une insulte qu'on nous fait à Dieu. Quand on veut bricoler les choses, ça marche pas, hein. Pas possible, hein. Le bruit, le tumulte. Une ambiance forte. Une atmosphère forte et impressionnante. Alors c'est vrai qu'un grand vent, c'est impressionnant. Le feu, c'est impressionnant. Le tonnerre, c'est impressionnant. Les éclairs, la lumière, les éclats, c'est impressionnant naturellement. Et on est à la recherche aujourd'hui d'un phénomène surnaturel. C'est bien le burn-out, c'est bien le syndrome d'Élie. 1, 2, 3, c'est quelque chose de très très puissant. Et puis là, ben, plus rien. Parce que Dieu va donner la réponse à tout ça. Hein. Le miraculeux, phénomène miraculé, et tout simplement surnaturel. Est-ce que tout cela est nécessaire pour déclencher notre foi? La foi, elle vient de la parole de Dieu. C'est une conviction morale, la foi. C'est pas parce que je vais voir un miracle. C'est pas parce qu'il va y avoir des choses extraordinaires. Le miracle ne donne pas la foi. C'est la foi qui produit le miracle. Ça, c'est autre chose. Et Jésus dira aux Galiléens, si ma mémoire est fidèle, « Si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez pas. » Alors Jésus est venu pour quoi ? Il est venu simplement pour faire des miracles, un faiseur de miracles ? Non, il est venu pour leur apporter la parole et les construire au niveau de leur vie intérieure. Et c'est ça la différence. Si vous ne voyez, vous ne croyez pas. Parce que Dieu parle autrement, frères et sœurs. Et on n'a pas qu'un schéma dans l'histoire biblique, dans l'histoire évangélique. Il parle aussi autrement. Et il nous fait passer de la douleur, du désespoir qui était le désespoir d'Élie, eh bien là, tout simplement à la douceur de la faiblesse et du silence. Ah, je vais m'expliquer. Parce que c'est quand même peut-être un petit peu difficile à aborder ou mettre en parallèle les deux choses. La douleur du désespoir d'Élie, effondré, catastrophé, il n'y a plus rien. Je veux mourir parce que c'est fini, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis il y a également cette présentation, cette douceur de la faiblesse ressentie par l'homme. Et également, eh bien, de ce silence après le vent, après le feu et puis après le tremblement de terre, parce que tout ça, ça fait du bruit. Et par trois fois, vous l'avez vu avec moi, vous l'avez lu, on l'a regardé ensemble, par trois fois, l'Éternel n'était pas dans. Pourtant, quand même. Il y a le vent, il y a toutes ces choses épouvantables et terribles et puissantes, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'imaginer, et il ne faut pas nous tromper par de faux raisonnements. Parce que si nous ne voyons que les choses extérieures, que les faits extérieurs, eh bien nous allons véritablement, eh bien là, être bernés, excusez-moi. Parce que je peux vous dire que dans le monde de l'occulte, on fait la même chose. Dans le monde de l'occulte, il n'y a pas la parole de Dieu. Mais il peut y avoir des signes, il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des choses qui sont là en disant « Mais ah, il y a quelque chose !» Eh oui, des dons, des talons, etc. Des talents, pardon. Et nous voyons que le feu n'était, l'Éternel n'était pas dans toutes ces choses, mais seulement un phénomène imperceptible, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper nous-mêmes, imperceptible, invisible, dans un murmure doux et léger. Ah oui, ça change tout. Parce que si nous attendons que Dieu se manifeste dans le tonnerre, qu'il se manifeste dans des choses... Je ne trouve pas le mot, vous en mettez un si vous voulez, mais là nous pouvons nous tromper. Et c'est bien la leçon que Dieu veut donner à Élie, le grand homme, le serviteur de Dieu, l'homme qui ouvre ses mains et qui reçoit du ciel tout ce qu'il lui demande, tout ce qu'il demande au ciel. Dans un murmure, un souffle, c'est la traduction, soit murmure ou souffle, j'ai compulsé plusieurs bibles, traduction. Brièvement, nous allons approfondir la question du ressenti illusoire charnel. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Le ressenti, mon sentiment charnel, c'est par mon esprit et pas par la chair, et illusoire. Or, Dieu s'adresse à Élie dans un souffle, dans un murmure, qu'on a appelé, que les commentateurs bibliques ont appelé la voix du silence. Moi, je trouve que c'est beau. La voix du silence. Dieu parle et quelquefois, eh bien, il nous parle aussi à travers le silence, à travers un murmure doux et léger. Et vous savez, il n'y a rien de meilleur, de plus doux et de léger pour une âme qui traverse la dépression, qui est en burn-out. Faut pas trop le bousculer, Élie, parce que là, il va mourir, tout simplement. Il va faire finalement là un infarctus. Non, Dieu sait très bien comment il va faire avec Élie, et il sait le passé douloureux, malheureux, de voir son prophète en train de courir dans le désert, à droite et à gauche, il ne sait plus où du tout, il en a. La voix du silence. Cette voix ne peut se percevoir, et ça c'est important, que loin du tumulte, du vent, du feu et du tremblement de terre, loin des agitations. C'est pour ça que Jésus a dit à un moment donné à ses disciples, lorsqu'ils sont revenus et qu'il les avait envoyés 70 en mission, « Venez à l'écart et reposez-vous un petit peu. » Parce qu'ils étaient tellement excités par ce qu'ils voyaient que finalement, eh bien, ils ne voyaient que ça. Excités, agitation, les signes extérieurs et le brouhaha que tout cela peut générer. Ainsi Dieu parle à l'âme des hommes, à nos âmes, à mon âme, à votre âme. Il lui parle de douceur, de paix et de confiance, parce qu'il faut remonter la pente maintenant. Et c'est pas dans le feu, c'est pas dans l'agitation, c'est pas avec des exploits, etc., etc. Non. Quelqu'un qui est à plat, il est à plat, et puis peut faire grand chose. Alors, la voie du silence, quelles que soient les circonstances, et quels que soient les lieux, là, c'est le désert, c'est une caverne, c'est l'obscurité, c'est un Élie qui est complètement perdu, il sait plus du tout où il en est rendu, quels que soient les lieux et les circonstances, la voie du silence rend propice l'accomplissement de la mission d'Élie interrompue. Il est descendu de haut quand il est descendu du Carmel. Extraordinaire, le feu qui descend du ciel sur l'autel. À un moment donné, il y a Jézabel qui passe par là. Je veux le tuer, celui-ci, parce que c'est pas normal. Et là, on voit cet homme, mais il va finalement se consumer comme de l'étoupe. C'est comme s'il prenait feu, il n'y a plus rien du tout, en quelque sorte. La mission interrompue. Frères et sœurs, on peut traverser des moments qui sont terribles. On a pu voir des vents violents, on a pu voir des feux qui brûlent, on a pu voir des tremblements de terre, des séismes, toutes sortes de choses, on a pu voir la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu, sa fidélité, sa bonté et tout ce que l'on veut, et à un moment donné, plus rien du tout. Et Dieu s'approche de nous, et il nous envoie sa voix, celle du silence. Et il nous révèle que notre vie n'est pas finie. Lui, il veut mourir. Dieu lui dit, mais tu vas pas mourir, Élie, c'est ça ton impression. Oh, je pense que tout ce que nous en sommes ce matin, quelquefois on a certainement voulu mourir. Quelquefois on est dans le bouillon, on se dit, Seigneur, mais il n'y a plus grand-chose. Ben, on se ressent soi-même, hein. On mesure un petit peu, on analyse un petit peu nos ressentis, nos difficultés, nos problèmes, et puis quand ça touche l'accident ou la maladie, on se dit, mais j'ai plus la force, j'ai plus rien. Eh oui, on est au bout, tout simplement. Mais c'est pas pour ça que notre mission et notre vie est finie. Parce que notre vie, finalement, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Hein. Vous avez compté vos cheveux? Ben pour ceux qui en ont encore. C'est plus facile à compter quand on n'en a pas beaucoup. Mais toujours est-il que vous connaissez un petit peu. Moi, je ne veux pas reprendre les paroles de Jésus, mais vous connaissez. Notre vie, elle ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. À partir du moment, du jour où on l'a confessé, on lui a dit, Seigneur, maintenant, eh bien, je suis à toi, je veux te suivre, je veux t'aimer, je veux te servir. Mais le Seigneur nous dit... Eh, dis donc, c'est ce que tu m'as dit il y a 40 ans en arrière, là, oui? Vous vous souvenez? 40 ans? Ça fait un petit bail, hein, quand même, hein? Dieu révèle au prophète, non, sa puissance. Parce qu'il aurait pu être remué par une démonstration tonitruante, extraordinaire. Non. Il lui révèle non sa puissance, mais sa présence. Mes frères et sœurs, c'est ça le secret. Sa présence. Que je la sente ou que je ne la sente pas, Dieu est là. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et non seulement il est avec nous, il nous a envoyé le Consolateur, où Jésus nous dira et nous enseignera, non seulement je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, il sera avec vous, mais il sera en vous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu est à l'intérieur de nous-mêmes, de chacun d'entre nous, dans la mesure où on lui laisse sa place, naturellement. C'est ça, sa présence. Certes, non, visible. La présence du Seigneur, elle n'est pas visible. Seigneur, où es-tu? Non, elle n'est pas visible, ça c'est sûr, mais elle est réelle. Dieu lui révèle une première chose, c'est sa présence, et il lui révèle une deuxième chose à Élie, c'est sa suffisance. Ma grâce te suffit. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je suis malheureux. Je ne sais plus, je marche dans du coton, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus. Que vaut ma vie? Eh bien, Dieu nous dit, je suis avec toi, je suis en toi, et je suis pleinement suffisant pour te donner ce dont tu as besoin. Mais laisse-moi faire. Abandonne-toi. Laisse-toi conduire. Prends cette parole. Et elle est peut-être pour quelqu'un, quelques-uns ce matin, qui a du mal à vivre, qui est peut-être dans un état chronique d'un marasme, un dégoût peut-être de la vie, et qui se dit, mais Seigneur, je peux pas continuer comme ça ma vie, et si je regarde les autres, oui, les autres qui vous sourient, les autres qui paraissent joyeux, vous savez, ils ont leurs problèmes aussi, hein. Faut pas regarder les autres, faut regarder au Seigneur, hein. Parce que lui, il nous connaît, il sait très bien ce que nous avons besoin. La présence et la suffisance de Dieu, voilà la grande leçon qu'Élie va apprendre. L'illusion d'Élie a été de croire que tout était fini, et tout était perdu, comme Jaïrus, qui entend les mauvaises nouvelles qui se succèdent, et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Mes frères et sœurs, ne craignez pas, croyez seulement. C'est un effort. C'est vrai, c'est un effort. Doux et léger. De quoi raisonner, de quoi redonner force et courage à tous ceux qui sont découragés. Et une nouvelle mission va s'ouvrir. Vous le lirez, c'est le verset 13, 14 et 16. Élie va avoir cette mission. Il pensait que tout était fini, il va lui dire. Écoute, tu vas aller voir Hazaël, le roi de Syrie, tu vas le oindre comme roi de Syrie. Tu vas aller voir Jéhu, un triste personnage. Enfin, toujours est-il que c'est Dieu qui l'avait appelé quand même. Jéhu, roi d'Israël, et tu vas choisir ton successeur. Priez pour moi. Je m'adresse à vous, là. Oui. Il va choisir son successeur qui s'appellera Élisée et qui fera des choses extraordinaires aussi grandes que son maître. Le manteau d'Élie va tomber sur les épaules d'Élisée. Extraordinaire ce qui va se faire. Alors là, je peux vous dire qu'il va y avoir du vent, il va y avoir des tremblements de terre et il va y avoir des choses, du feu aussi. Hein. Deux rois pour donner suite à la mission et un prophète va se lever à ce moment-là, tout simplement. Ah, il y a un apprentissage pour chacun d'entre nous. Il faut mourir à nos illusions. Et ça, c'est pas facile. Et quelquefois, Dieu va déjouer un petit peu nos schémas, notre façon de penser, de dire, ben voilà, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Alors, on a tous fait l'expérience, un moment ou un autre de notre vie, de tenter, de dire au Seigneur ce qu'il devait faire pour nous. Hein? Votre Père sait que vous en avez besoin. C'est tout, ça se limite là. On a tous fait ça, et on le fait peut-être encore. On est quelquefois confronté devant des situations qui nous laissent perplexes. Seigneur, est-ce que je vais avoir la mission de Moïse, travailler jusqu'à 120 ans? Mais je le prends pas mal, hein, parce que finalement, c'est ma vie. Mais je voudrais pas quand même que la barbe blanche et tout ça, je risque de me prendre les pieds dedans. C'est quand même un danger. Hein. Alors, il faut mourir à nos illusions charnelles qui nous aveuglent et qui nous égarent. Et c'est pour ça que quelquefois nous tournons très longtemps comme des Hébreux dans le désert en cherchant là, eh bien, à trouver ceci, cela, etc. Sentir, ressentir, impression, raisonnement, juger à vue. Dieu à Élie, que fais-tu là? Que fais-tu là, dira-t-il? Sentir ou non la foi. Et je termine par cette conclusion. Important, me semble-t-il. Il ne faut pas confondre la présence de Dieu elle-même avec le sentiment de sa présence. Alors, il ne faut pas être trop compliqué, parce que là aussi, on est un petit peu dans l'illusion. On peut l'être. Oui, je répète. Confonce la présence de Dieu elle-même avec le sentiment de sa présence. Cette distinction est une clé fondamentale pour vivre notre foi pleinement. Et je vais m'expliquer. Sans la faire dépendre, notre foi, notre vie spirituelle, notre foi, de nos sentiments. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. On reste sur cette note. Hein, et nos sentiments nous trempent. Oui, le sentiment. On peut le dire comme ça aussi si on veut, hein. Ressentir la présence de Dieu est une grâce. Merci Seigneur, je vis des moments parce que je suis en train de lire ta parole, je suis en train d'écouter un message, je suis en train de recevoir un don spirituel, mais c'est une grâce et je dis que merci Seigneur parce que quelquefois c'est cette eau douce, cette pluie qui tombe et qui nous rafraîchit dans les moments de difficulté. Alors, cette présence de Dieu est une grâce. Ne considérez que ce n'est pas un dû, mais c'est une grâce. Donc, on ne peut pas l'exiger puisque c'est une grâce. C'est Dieu qui nous fait un cadeau et qui nous fait une faveur. Seulement, on peut y aspirer ou la demander. Seigneur, fais-moi la grâce de me visiter et de me faire du bien. On a compris ça. Mais que cette prière soit une ouverture et non une crispation intérieure centrée sur l'attente de cette grâce. Et malheureusement, nous avons des enfants de Dieu qui ne vivent que Dieu leur donne des impressions, leur donne des sensations, fasse marcher leur sens en disant « bien Dieu est là ». Vous savez, dans les grandes religions, chrétiennes, païennes, excusez-moi l'expression, c'est un peu tiré, hein, mais toujours est-il qu'on a mis tout pour que finalement Dieu dit que les gens disent ou les croyants disent, ben je vais dans tel endroit, j'allume une lumière, une bougie, il y a les odeurs, l'encens, etc. Ça leur donne finalement l'impression, ils fonctionnent qu'avec ça, et ça leur donne l'impression que dans ce lieu-là, avec tel ou tel moyen, eh ben ils sont plus près de Dieu et ils sentent, ils se disent, ah là, je sens que le Seigneur est là. C'est faux. Alors là, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt d'avoir des bougies et de l'encens ici. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Bon. Mes frères et sœurs, qui cherchaient la présence du Seigneur, et qui en fait une crispation, et qui vous bouffe la vie, et qui fait et qui multiplie toutes sortes de choses, permettez-moi de dire, ne vous trompez pas par de faux raisonnements, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, ni par la puissance. Ce n'est ni par la force, ni par les odeurs, ni par la vue, ni par la musique et tout ce que vous voudrez, c'est par mon esprit. Et ça, c'est une autre dimension. Quand je me fâche comme ça, n'ayez pas peur. Hein. Ben, je suis convaincu. Hein. Bon. Parce que quelquefois, ça rend les gens malheureux. Hein. Vous savez, les Hébreux dans le désert, ils voulaient avoir des cailles, ils voulaient avoir de la manne, ils voulaient ceci et cela, ben, Dieu est avec nous. Hein. Quand ils avaient, mais quand ils n'avaient pas, ils n'étaient pas contents. Hein. C'est ça qui leur a permis de... que Dieu leur a dit, ben écoutez, vous voulez tourner pendant 2 ans, ben vous allez tourner pendant 48 ans supplémentaires, enfin 38 ans supplémentaires. Il est bon de ressentir la présence de Dieu, c'est une expérience qui fortifie, cependant ce n'est qu'une expérience, et on ne vit pas qu'avec des expériences, on vit avec des convictions mes frères et sœurs. Et s'il n'y a pas d'expérience, eh bien c'est pas pour ça que le Seigneur a changé et qu'il m'a abandonné, il reste toujours le même, et moi je dois dans mon développement, de ma maturité spirituelle, que je vois ou que je ne vois pas, le Seigneur est là, c'est tout. Qu'il donne ou qu'il donne pas, le Seigneur est là. Or, le risque consiste à faire dépendre la présence de Dieu de cette sensation ou de cette impression. Et je m'explique encore. Nombre de chrétiens ne vivent et ne passent tout leur temps qu'à rechercher ou à retrouver le sentiment pour dire que Dieu est avec eux. Que Dieu les bénit. Et que Dieu les conduit. Ben, si je dois le dire qu'à chaque fois que j'ai le sentiment et l'impression, le souffle, la vibration, le tressaillement et tout ce que vous voulez, ben, à ce moment-là, non, c'est pas sur ces deux. Et c'est pour ça que ces chrétiens-là, ils vont de ci, de là, ils courent un petit peu de tous les côtés, et pour eux, une réunion, une église, tout simplement, n'est bonne que s'ils ont ressenti quelque chose de fort. Permettez-moi de le dire, vous allez me couper la tête, mais c'est pas grave. Mais que c'est complètement faux. C'est faux pour toutes les religions pseudo-chrétiennes, mais c'est vrai également pour les évangéliques que nous sommes. D'aller d'une église à une autre en disant, mais c'est là, etc. Si vous êtes dans une église, restez-y. Si elle vous convient, restez-y. Maintenant, si vous cherchez, mais n'allez pas papillonner et butiner de tous les côtés, parce que là, c'est la confusion. Hein. On l'a vu et on le verra encore, malheureusement, hein. Oui, je vais à cette réunion, je vais dans cette église, parce que de toute façon, eh bien, j'ai senti quelque chose de fort. Écoutez, je vous dirais, n'allez pas vous imaginer que je viens tous les dimanches là ici au milieu de vous, parce que j'ai ressenti des choses fortes. Hein. Je suis là parce que je dois apporter la parole de Dieu. Hein. Et que ça aille pas, ben, faut que ça y aille quand même, hein, de toute façon. Parce que je crois que le Seigneur est là. Parce que le Seigneur va bénir sa parole. Il bénit. S'il veut ce que je suis, le personnage que je suis, avec toutes mes fragilités. Mais une chose qui est certaine, c'est que n'allez pas raisonner de cette manière, parce que c'est complètement faux, il y en a un qui vous attend, hein, c'est l'adversaire. Hein. Ah, j'étais dans une réunion, j'étais ceci, cela, ah mais vraiment, là j'ai éclaté. Hein. C'était que... Ça c'est l'âme, l'émotion, la sensibilité. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration de celles qu'on espère. Elle n'est pas la somme de nos expériences, elle n'est pas la somme de nos histoires personnelles, de notre passé, de notre vécu d'hier, des temps que nous avons idéalisés, ou le témoignage vécu est raconté par d'autres pour faire comme eux. Ça, c'est complètement faux. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements, et qu'il faut retrouver à tout prix. Dieu est présent aujourd'hui. Il le sera aussi demain, mes frères et sœurs. indépendamment de ce que nous pouvons ressentir, sentir, parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui doit, finalement, c'est le régulateur. Ouais. Moi, ça me fait penser à une chose qui me concerne personnellement, c'est comme la thyroïde. Ça régule finalement tout l'état général, l'équilibre du corps, en hypo ou il y a l'hypo et puis l'hyper. Voilà. Eh bien, moi, je dis que, excusez-moi l'expression, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais une chose qui est certaine, eh bien, nous avons besoin d'équilibre. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner à tous nos organes, qu'ils soient moraux, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient spirituels, c'est finalement le Saint-Esprit qui va nous donner l'équilibre dans tout ça. Et non pas nos émotions et nos sentiments et nos ressentis. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Je vais terminer, on va remercier le Seigneur si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que le burn-out d'Élie, ce syndrome que nous pouvons dire, eh bien Seigneur, c'était hier, c'était un homme de la même nature que nous. Mais nous voulons croire, Père éternel, que cet homme a appris une grande leçon. Il l'a pas appris tout de suite quand il est rentré dans le ministère et l'appel de Dieu, il l'a appris lorsqu'il était vieux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, nous avons besoin de comprendre que si nous marchons à un moment donné par nos sens, et c'est tout à fait normal, un enfant fait la même chose, il est sensuel. Mais Seigneur, être sensuel dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la jeunesse, à un moment donné, eh bien, Seigneur, nous devons véritablement être des hommes faits et des femmes faites en Jésus-Christ, avec cet équilibre. Et nous te bénissons et nous te remercions. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous de ne pas nous tromper par de faux raisonnements, du senti, du ressenti, et ainsi, Seigneur, eh bien, nous enfermer dans une caverne et errer dans le désert, comme Élie a pu le faire. Mais tu lui as parlé, tu lui as dit que, en effet, tu prenais soin de lui. Et tu lui as parlé, Seigneur, par un murmure doux et léger. Parle-nous encore ce matin, Seigneur. Et moi, je te prie pour mes frères et mes sœurs, qui peut-être peuvent se reconnaître à travers la parole de Dieu, et qu'ainsi, Seigneur, ils puissent venir à toi et te dire, eh bien, Seigneur, donne-moi de grandir. Donne-moi, Seigneur, de peut-être mettre en veille maintenant tout ce fonctionnement que j'ai développé, que j'ai recherché, qui est celui des sens, qui est celui de la chair, et qui n'a rien à voir avec la vie de l'esprit. Merci, Seigneur. Tu bénis mes frères et sœurs. Tu leur donnes ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.